Yep.
Ça a dû démarrer, ça a démarré. Bonjour à tous. Petit retard d'allumage ce matin, il est 8h02. Booster, ça va. Moteur auxiliaire, ça va. La checklist est bonne. C'est bon, on m'entend 5 sur 5. C'est nickel. On va pouvoir faire décoller ce Techscope. Alors, je le dis tout de suite avant qu'on commence. Il y a eu manifestement, je ne sais pas ce que YouTube a merdé hier. L'enregistrement du replay est complètement découpé. Enfin, c'est inregardable, inécoutable. Donc, j'en suis désolé pour ceux qui regardent le replay. On va voir si ça continue à merder aujourd'hui. Le truc, c'est que je peux pas faire grand-chose à part avertir YouTube. C'est pas nous qui gérons en fait l'enregistrement du replay. Si on voit que le problème devient sérieux, faudra qu'on trouve une autre méthode, un autre truc pour pouvoir vous offrir un replay potable. Mais j'espère que c'était un problème ponctuel. Le replay est déjà parti dans... Oui, le replay d'hier a été complètement dans les graviers. Salut Tristan. Comment ça va ce matin? Bon, allez, hein, on est déjà en retard. Donc, vous vous en doutez, on va terminer en retard, comme d'habitude. On va déjà remercier nos contributeurs du jour. J'ai la liste ici. On remercie Arthur, Lucas, ODH, Pascal et Notmousse. Merci beaucoup pour vos contributions. Contributions sans qui nous ne sans lesquelles nous ne serions pas là. Oui, Vectan, salut d'ailleurs. Oui, tu as raison, c'est juste que ça me fait faire une manip de plus, un upload à faire derrière. Je préfère que ça se passe de manière automatique côté YouTube. Voilà. Jérôme, toujours en retard. N'importe quoi. Alors là, Hicham, je ne te permets pas de faire des remarques comme ça. Je ne suis pas toujours en retard. Et puis, les retards, c'est rarement plus d'une ou deux minutes. Alors, trouvez-moi des lives hein, qui démarrent. Non, mais oh. Hein? Bon, on n'est pas à la télé ici, hein? Sinon je vais vous faire payer la redevance, moi. Je regarde en petit déjeunant ce matin, homard et champagne. Eh ben écoute, tant mieux pour toi. C'est pas très bon hein, pour la santé, mais de temps en temps, un petit homard, un petit peu de champagne, ça permet de faire glisser. Allez, pendant que la chatroom se remplit, on va faire notre petite expression désuète du jour. Hier, nous avons vu battre la chamade. Aujourd'hui, nous allons voir un échalas. Eh oui! Il s'agit à l'origine d'un pieu soutenant un arbre ou une vigne. La proximité du mot avec échelle a ajouté à l'idée de hauteur et celle de maigreur et de raideur. Un échalas, on dit ça en gros d'un grand fin, c'est ça? J'avoue que j'ai jamais utilisé un échalas. Un échalas. Bon, ben comme ça, hein, on sortira au prochain dîner en ville. Hein. Ça sera fait. T'es juste en retard les vendredis. Oui, mais c'est vendredi. Hein, le vendredi, tout est permis. Allez, on va passer maintenant au cœur de l'émission, hein, des news tech qu'on va voir ensemble, commenter ensemble de quoi on va parler ce matin. On va le découvrir ensemble. On va parler effectivement de Nintendo qui dévoile sa Switch Lite, plus petite, plus abordable et moins polyvalente. Un article des numériques. On parlera également de Washington, les États-Unis, qui lance une enquête sur le projet de taxe GAFA en France, qui est en passe d'être voté. Nous parlons également de Facebook, qui doit répondre aux craintes suscitées par le projet Libra, déclare Powell, hein, aux États-Unis. Nous parlerons également de... Alors, j'adore le titre. Hein, on parlera également du titre, hein, les choix de titre, bravochallenge.fr, qui nous dit « Monaco, premier état 5G d'Europe grâce au sulfureux Huawei ». Ah là là, ça, c'est du titre, hein, les gars. Ajouter un petit espion chinois là-dedans, ça fera encore plus de clics. Les espions chinois s'installent à Monaco avec le sulfureux Huawei. On parlera d'un truc assez drôle avec iOS 13 qui a été découvert hier. Vous allez voir, si vous n'avez pas de nom dans votre Game Center, iOS 13 vous propose des noms qui sont pas piqués des verres. Voilà une expression désuète à expliquer, pas piqués des verres. Vous verrez, c'est assez rigolo, on fera l'expérience ensemble. Et nous parlerons de la triste histoire d'une d'une carte Pokémon Collector qui a été vendue 60 000 $. Là, pour l'instant, c'est pas une histoire pas drôle. Mais par contre, elle s'est perdue pendant l'expédition. Ah, ça, déjà, c'est beaucoup moins drôle. Ça sera à la fin de l'émission. Eh bien, on va pouvoir démarrer tout de suite, tous ensemble. Hop, je ramène ma trombine. Les deux sont acceptés, Richard. Il n'y a pas piqué des hannetons et pas piqué des vers. Ça dépend des régions. Hein. C'est un peu comme la chocolatine et le pain au chocolat. S'il te plaît, Jérôme. Ah, mais c'est un peu répétitif. J'espère que le sommaire vous va. J'en ai pas d'autres. Ok. Vous avez besoin de votre rituel du matin. Hein. Je comprends. Hein. Entre le pipi et le café, si vous n'avez pas votre petite phrase rituelle, ça va pas. On est perdu. Bon baiser de Chine à Monaco. Pas mal aussi comme titre. Ça pourrait faire un bon OSS. Dans ma région, c'est pas piqué des jaguars. T'habites à Monaco. Bon, allez. Putain, la chatroom, je sens que ça va être difficile hein, aujourd'hui. Hein. Vous êtes en forme. On est jeudi, hein, d'ailleurs. Pourquoi vous m'avez fait dire qu'on était... J'ai l'impression d'être vendredi tellement je suis fatigué. Mais non, on n'est que jeudi, en fait. Allez, on commence tout de suite. On va parler de Nintendo. Nintendo qui a dévoilé hier sa Switch Lite. Des rumeurs couraient depuis quelques semaines. Mais ça y est, c'est confirmé. La Nintendo Switch Lite est officialisée. Nintendo vient d'annoncer la petite sœur de la Switch qui arrivera sur le marché le 20 septembre, donc à la rentrée, pour 199 $. Croisons les doigts, ça fera peut-être 199 €. La console sera disponible en 3 coloris, jaune, gris et turquoise. Pour ce prix, il faudra faire quelques sacrifices, on s'en doute un petit peu. Il y a des fonctionnalités qu'on n'aura pas. Alors, je vais vous la montrer. Ne s'enlève pas. C'est vraiment une console faite pour jouer en mobilité. C'est malin, j'ai envie de pain au chocolat maintenant. Je vous la montre. Elle va ressembler à ça. Donc une console finalement beaucoup plus traditionnelle. On le voit tout de suite, hein, les manettes sur les côtés. Donc avec un prix quand même, somme toute, assez agressif, hein, 200 € par rapport au prix de la Switch normale. Alors quels sont justement les sacrifices qui ont été consentis pour arriver à ce prix-là? Eh bien, les Joy-Con, effectivement, la béquille et la possibilité de connecter sa console à la télé, vous n'aurez pas. C'est vraiment une console faite pour jouer dans vos mains. Vous ne pourrez pas la connecter. Il n'y a pas le système effectivement pour la brancher. Surtout, il n'y a pas les Joy-Con. C'est une console tout en un, exclusivement portable. Il y aura également dans les nouveautés, il y a quand même des nouveautés par rapport à la console traditionnelle, une véritable croix directionnelle qui viendra remplacer les boutons de Joy-Con gauche. La console est également plus compacte et légère, hein, c'est logique. L'écran qui l'équipe est également plus petit, ça sera un 5,5 pouces contre une 6,2 pouces/heure contre 4310 mAh dans la version standard. La console promet pourtant une meilleure autonomie, hein, moins de pixels à pousser. Il sera possible de jouer environ 4 heures à Zelda Breath of the Wild standard. La définition de 1280x720p reste la même. La batterie sera plus petite sur ce modèle, 3750 mAh contre 3 heures, pardon, Zelda Breath of the Wild contre 3 heures sur le modèle standard. L'absence de Joy-Con, l'écran plus petit, le reste des entrailles de la bête reste semblable d'ailleurs. 32 Go, processeur Nvidia Tegra, port USB-C, etc. Bien sûr, comme on n'aura plus les Joy-Con, le motion gaming, qui était le grand concept de Nintendo, sera pas de la partie. Les utilisateurs de Switch Lite devront dire adieu à des jeux comme 1-2 Switch ou Super Mario Party, ou alors il faudra acheter une paire de Joy-Con en plus de votre Switch Lite. Nintendo a donc pris le parti d'une console, a pris sa console modulaire et polyvalente pour la transformer en une espèce de nouvelle Game Boy ou de successeur à la 3DS, même si Nintendo dit « nous continuerons de supporter la 3DS tant qu'il y aura de la demande ». Mais clairement, c'est un produit qui va sur ce créneau-là. Pas bonne idée cette Switch Lite. On dirait qu'ils veulent écouler les manettes de Wii U. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est un bon ticket d'entrée pour la Switch. Ça peut être également un produit complémentaire hein, pour ceux qui ont déjà la Switch et qui veulent quelque chose d'encore plus compact, de léger à trimballer. Non, je pense que c'est pas une mauvaise idée de capitaliser sur le succès de la Switch en faisant une version. 200 €, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Pour des cadeaux de Noël, des choses comme ça, c'est pas mal. J'aurais préféré une Switch Pro. Ça me fait toujours rire quand il y a des consoles de jeux avec le mot Pro derrière. Je pourrais faire passer ça comme ça sur le budget comptable de notre société. Hey, monsieur le comptable, c'est une Switch, mais Pro. Hein? Alors, on a le droit, c'est écrit Pro. Donc, c'est pour le boulot. Pas très crédible. Déjà que je dois lui expliquer qu'on achète certains trucs, effectivement, qui ressemblent un peu à du divertissement, mais c'est pour tester sur la chaîne, monsieur. Oh. Elle arrive, la Switch Pro, enfin la Switch plus puissante. Peut-être, peut-être. Une Switch avec un écran AMOLED 1080, pliable aussi, hein, tant qu'on y est. Avec un écran de 10 pouces, oh, vous êtes fous. Vous connaissez pas Nintendo, hein. La Switch était déjà bien pour... Parce que ouais, ça a un potentiel pour faire un petit phénomène comme la Game Boy a eu à son époque. On sent que ça sera une Switch pour les plus jeunes aussi. Pourquoi encore faire... Ils font pas tellement plus petits, Gaucher, ils font plus accessible, moins cher. Moi, je pense que le côté coloris, on peut l'avoir en bleu, en jaune, ça peut le faire. Ça peut le faire. On verra bien. Hein. On verra bien comment ça se passe pour eux. La console sera finalement plus chère que la Switch standard que l'on trouve à 260. Bon, c'est pas faux ce que tu dis, Joël. C'est que c'est vrai qu'avec les promos, etc. Mais imaginez bien aussi qu'une Switch Lite, elle va sortir à 200 €. Mais elle aussi, elle bénéficiera de promos à des moments. Mais c'est vrai que dans l'absolu, le positionnement prix, un truc à 150 € serait peut-être plus cartonné. À voir. À voir, à voir. Allez, on continue à parler de trucs moins réjouissants, quoique, hein, si on se place du côté rentrée fiscale, ça peut être plus réjouissant. Enfin, ça dépend de quel côté on se trouve, puisqu'on va parler de la taxe GAFA, la fameuse taxe GAFA, qui est actuellement étudiée et qui en passe d'être votée en France. Je vais pas revenir sur la news, mais ce qu'il y a d'un petit peu regrettable avec cette taxe GAFA qui vise à une taxe fiscale sur le chiffre d'affaires des grands groupes numériques, c'est que la France est un peu toute seule avec sa bite et son couteau. Les copains européens ont pas trop suivi, ou ils veulent faire des trucs de leur côté, ou alors ils veulent pas fâcher les Américains. Ce qui, et c'est la news du jour, n'a pas manqué. Washington est furieux, Trump est furieux, il a ordonné mercredi une enquête sur les effets de cette taxe de la France. Ça va être beaucoup plus facile pour les États-Unis de taper, d'envoyer des petites baffes à la France que si l'Europe, d'une voix commune, avait voté cette taxe GAFA. Mais bon, écoutez, il y a un moment, hein, si les autres veulent pas suivre, faut bien qu'il y en ait un qui y aille. Donc, cette taxe française sur les géants de numérique ne passe pas outre-Atlantique. L'administration Trump envisage des mesures de représailles américaines. Ils vont pas se laisser faire. Effectivement, les États-Unis sont très préoccupés par le fait que cette taxe sur les services numériques, qui devrait être adoptée par le Sénat français, vise injustement les entreprises américaines. Donc, Robert Light sont ceux dans lesquels les entreprises américaines sont des leaders mondiaux. Le cadre du projet de loi, de même que les déclarations des représentants français, suggère que la France vise de manière déloyale certains Lighthizer, qui est le représentant américain du commerce, a communiqué l'ouverture de l'enquête. Il estime que les secteurs concernés par cette taxe sont basés aux États-Unis. Rappelons un petit peu quand même le contenu de cette taxe GAFA, puisque les députés et les sénateurs français sont parvenus fin juin à un compromis sur le projet de loi sur la taxation des géants du numérique, ouvrant la voie à son adoption définitive à courte échéance, ciblant notamment les firmes Google, Apple, Facebook ou encore Amazon. Cette taxe de 3% sur le chiffre d'affaires s'appliquerait rétroactivement le 1er janvier 2019 aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires sur leur activité numérique de 750. Cette taxe était décidée au niveau international. En gros, la position de la France, c'est de dire il faut faire quelque chose et il faut taxer. Et là, si vous avez suivi les news, 50 millions d'euros au niveau mondial et plus de 25 millions d'euros sur le sol français. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a affirmé à plusieurs reprises qu'il abandonnerait cette taxe si cette taxe était décidée au niveau international. En gros, la position de la France, c'est de dire il faut faire quelque chose et il faut taxer. Et là, si vous avez suivi les news, même les Américains sont d'accord sur le concept même d'une taxe. Aujourd'hui, ces grands groupes, certains vont dire qu'ils font de l'évasion fiscale, d'autres vont dire qu'il y a trop d'opportunités d'optimisation fiscale. Hein, il y a une nuance entre fraude et optimisation, parfois nuance ténue, je suis d'accord. Néanmoins, on voit ce qui se passe en Europe, on en a parlé plein de fois, moult fois. Ces géants du numérique profitent du système européen pour déclarer le chiffre d'affaires dans d'autres pays que les pays où le business est fait, en fait. C'est ça le problème, pour faire simple. En gros, Google va faire un certain chiffre d'affaires en France, mais ce chiffre d'affaires va être déclaré en Irlande, pour la faire simple. Ce que précise également Bruno Le Maire, c'est que cette taxe, en tout cas dans le texte, ne vise pas les entreprises américaines. Elle vise toute entreprise qui fait 750 millions au niveau mondial et 25 millions sur le sol français. Après que toutes celles qui font ça soient américaines, oups, désolé, hein. Chabit, le nouvel argument de géopolitique. Chabit. Donc, effectivement, alors, les Américains, on peut pas, enfin, c'est normal de défendre avant qu'on ait de l'anti-américanisme primaire dans la chatroom. C'est normal, c'est de bonne guerre, on va dire. Les Américains sont pas très contents, il y a du lobbying de Google, d'Apple, de Microsoft et tout ça qui fait « 3% sur le chiffre d'affaires, et ça fait cher, hein. Ça va être dangereux pour les emplois américains, etc. etc. » Donc, les Républicains et les Démocrates, d'ailleurs, sont d'accord, il n'y a pas de fight politique sur cette idée. Ils ont salué l'ouverture de cette enquête en disant « La taxe sur les services numériques préparée par la France et d'autres pays européens est clairement protectionniste et vise injustement des entreprises américaines avec un préjudice pour l'emploi et les travailleurs américains. Donc voilà, ils ne sont pas contents. Hein ? Est-ce que vous voulez qu'on parle de la taxe sur Airbus ? Hein, les Américains, vraiment ? Je fais mon français, hein ? Faut pas nous la faire à l'envers non plus, hein ? Non, mais encore une fois, c'est de la guerre commerciale, ça. C'est normal, c'est de la négo. Entre guillemets, c'est de la négo. Faudrait juste que nos politiques soient plus intelligents que leurs conseillers fiscaux et mettent en place des lois plus appropriées, c'est pas gagné. Ouais, avant de faire du French bashing, du US bashing, du politico bashing, moi, en tout cas, ce que j'en pense, hein, je vous donne mon opinion, je pense que ça va dans le bon sens. il faut effectivement que la fiscalité rattrape ces entreprises qui, avec en plus comme difficulté, ont tendance à vendre du gratuit. Hein, je vous ai déjà expliqué ça dans pas mal d'articles et dans des vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Ce qui les rend plus invulnérables à des lois antitrust. Et comme c'est des entreprises qui sont effectivement complètement mondialisées, ça leur donne beaucoup de facilité sur de l'optimisation fiscale. Moi, je suis de ceux qui disent que ces sociétés, jusqu'à preuve du contraire, n'agissent pas dans l'illégalité. Par contre, elles ont suffisamment d'experts pour arriver à faire des optimisations fiscales qui sont complètement dingues et qui se retrouvent à payer moins 9% d'impôts dans les pays où elles exercent leur activité, là où la plupart des moi, le principal regret, donc je dis ça va dans le bon sens. Le principal regret, on ne peut que regretter effectivement qu'il n'y ait pas eu un accord européen sur cette OPM 3 et 31, voire 35% d'impôts. Donc ça pose des problèmes de concurrence, c'est évident. Est-ce la France extrêmement vulnérable, hein? On va pas se mentir non plus. La France n'est pas un petit pays. Arrêtons de croire qu'on est un microbe. Arrêtons de croire aussi que on va pouvoir se défendre tout seul sans l'Europe dans des guerres commerciales comme ça. On peut être balayé. Regardez ce que les États-Unis arrivent à faire en tordant le bras de la Chine. Je veux dire, ils ont des moyens de nous la faire payer cher, cette taxe GAFA. Les mesures de rétorsion peuvent être assez importantes. Donc, c'est vraiment une compétition hein, qu'il y a entre, on va dire, les grandes nations. L'Europe pèse lourd. L'Europe pèse très, très lourd. C'est pas des marchés que les Américains peuvent balayer en disant « Oh, rien à foutre ». Dommage, effectivement, qu'on n'ait pas présenté un front uni européen. On se plaint suffisamment de l'Europe, mais elle devrait nous servir dans ces cas-là. Elle devrait nous servir justement à être unifiée, alors que pris individuellement, les marchés européens, tels la France, ouais, les Américains peuvent dire « Ok, la France voulait jouer ça, bon, eh ben, on va faire ça, ça, ça et ça dans les autres pays qui sont pas taxes GAFA. Et puis vous, bah, je sais pas, on va réduire les services. » Enfin, il y a des moyens de rétorsion. Ou alors, on va taxer vos produits. Oh, on va pas commencer avec un débat européen, non-européen, machin. Moi, je vous donne mon opinion. L'Europe, d'un point de vue géopolitique, je suis 100% pour. Merci Mathias Depic pour ton super chat. C'est illégal de taxer en France des entreprises dont le siège est en Irlande ou au Luxembourg. Bah oui, c'est là où effectivement l'Europe se prend les pieds dans ses propres contradictions, hein. Le problème, je suis d'accord, il faut commencer à se défendre. En tout cas, dans la négociation commerciale au niveau mondial, si on se laisse faire, on se fait baiser, c'est clair. Maintenant, la France qui part tout seul sur son canasson, « Ah, taillot, oh là là !» Je sais pas, ça sent pas très bon cette histoire. Jérôme, il faut que tu arrêtes avec ton « on ne va pas commencer ». C'est un article sensible, c'est normal que ça suscite des passions. Je suis d'accord, Jérôme. Ce que je dis juste, c'est que on va pas partir dans un article et ouvrir cet article au débat pro-Europe, anti-Europe. C'est pas le sujet. C'est ça que je veux dire. Taillot, oui, bah Taillot, c'est un... Je crois que c'est dans la chasse à cour qu'on dit Taillot. Merci Gaylor pour ton super chat également. Allez, on continue dans les articles. Hein, on verra, ça va peut-être être le nouveau feuilleton de l'été. La France versus le monde. Ça aussi, ça ferait un bon titre pour OSS 117. Allez, on va parler du projet Libra, hein, cette fameuse, crypto-monnaie que Facebook s'apprête à lancer. Eh bien, le le président de la réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, il a dit ça. Hein. Il a fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je retranscris exactement ce qu'il a dit. il explique effectivement que Facebook ne pourra faire avancer le projet de monnaie virtuelle Libra tant qu'ils n'auront pas répondu aux vives inquiétudes qu'ils soulèvent. Effectivement, il vient faire écho à déjà d'autres réserves qui ont été émises, notamment par les gouverneurs de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, et par Marc Carnet, celui de la Banque d'Angleterre. Il précise « Je ne pense pas que le projet puisse aller de l'avant sans une large approbation sur la manière dont l'entreprise répond aux inquiétudes sur le blanchiment d'argent et tous ces types de questions. » Il a déclaré ça devant la Chambre des représentants devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants américains. Effectivement, il précise que le Libra soulève de graves inquiétudes concernant la vie privée, le blanchiment d'argent, la protection des consommateurs et la stabilité financière. Il a indiqué que la Fed avait mis en place un groupe de travail pour suivre le projet, qu'elle coordonnait ses activités avec d'autres banques centrales à travers le monde. Il s'attend à ce que le Conseil de surveillance de la stabilité financière, la fameuse FSS, le président de la Fed a dit par ailleurs être favorable à l'innovation dans la finance. Il dit c'est bien, il faut innover dans la finance. Mais, il estime que le Libra se distingue des autres crypto-monnaies par... C'est la FSOC aux États-Unis examine également le projet. Utiliser le Libra, ça fait beaucoup de monde sur une crypto-monnaie d'un coup, quoi. Donc effectivement, et on a déjà vu les problèmes que pouvait susciter pour certains pays la crypto-monnaie, notamment les pays qui sont en inflation, l'essentiel du déploiement du Libra. Aujourd'hui, Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs, même si, allez, on va être optimiste, 10% des utilisateurs Facebook se mettent en inflation galopante ou qui ont des problèmes comme ça, ça peut donner des valeurs refuges qui peuvent déséquilibrer des économies qui sont déjà fragiles. Donc, mon opinion à brûle pour point, parce que je n'ai pas étudié non plus le dossier en long et en large. Le Libra, moi, je pense de plus en plus que c'est quelque chose de très intéressant. Je vous expliquerai peut-être pourquoi, dans d'autres, on aura le temps. Et je pense que ça peut marcher. Je pense que les banques centrales et le vieux système bancaire se fait un peu dessus. C'est clair que, disons qu'ils perdent des prérogatives. Néanmoins, sans être forcément d'accord avec ces banques centrales et ce système bancaire traditionnel, attention quand même à ce qu'on fait, quoi. Ah, Mathias Depic, j'ai pas les chiffres, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire dans notre monde de technophiles qui utilisent de moins en moins Facebook, Facebook continue à avoir beaucoup d'utilisateurs actifs mensuels. Hein. Le chiffre est très haut. Facebook va bien. Hein. On aimerait que ça aille mal, mais Facebook va bien. Vieillissant, certes, mais encore une fois, le vieillissement n'a pas que du mauvais pour Facebook, puisque ça amène des utilisateurs qui ont plus d'argent que les jeunes. À voir. En tout cas, effectivement, il commence à y avoir une contre-réaction à l'annonce de Facebook. Je pense que Facebook s'y attendait et s'y préparait à cette contre-réaction. Il est fort probable que Libra commencera peut-être en version bêta en 2020, mais le gros déploiement, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Oui, c'est un des problèmes, mais c'est un problème moi qui m'interpelle beaucoup. C'est effectivement les pays qui sont déjà fragiles économiquement. On a vu déjà les réactions aux crypto-monnaies. Ça peut rendre des situations déjà délicates économiquement, catastrophiques. Je me trompe peut-être, mais le Libra sera surveillé à la loupe et le monde des affaires laissera-t-il faire? On verra. Libra m'en tombe. Oh, joli Philippe. En forme, Philippe, ce matin. Libra m'en tombe. C'est pas mal du tout. Libra raccourci aussi, enfin bon, il y en a plein. Mais les personnes âgées vont pas se lancer dans le minage de crypto-monnaies. D'abord, c'est pas une crypto-monnaie que tu pourras... Ah, Randall... Oula, nous avons une guerre de copyright de blagues. Randall Flag. Ah, on va demander effectivement à notre jury de remonter l'ensemble des chatrooms pour éliminer hein, le Libra. On avait déjà un peu expliqué le fonctionnement. La France fera une taxe sur le Libra, possible. Libra Montombe, la paternité du jeu de mots Libra Montombe, est-ce que c'est Randall qui l'avait trouvé en premier ? Libre à toi de t'en servir, journal du hasard, bravo, mais après je sais pas si t'es le premier. Ça y est, alors tout le monde se lance, hein, vous déposez vos copyrights. Samuel et votre jury, exactement. Eh bien, Samuel a tranché. Randall Flag à la paternité du jeu de mots Libra Montombe. On verra bien. Ça va être intéressant à suivre, en tout cas, cette aventure du Libra. Moi, je vous le dis, mais c'est peut-être parce que j'ai un esprit de contradiction. Tout le monde dira, ça marchera pas. De toute façon, Facebook, plus personne ne l'utilise. En tout cas, dans mes cercles, dans ma bulle. Moi, je pense que ça a le potentiel de faire quelque chose d'assez énorme, le Libra. On verra. Ah, Libra raccourci, je l'ai fait avant, Yannick. Hein. Attention. Hein. Fait, après, c'est vrai que les banques centrales peuvent bien mettre les bâtons dans les roues aussi, hein, des systèmes comme ça. On verra bien, on verra bien. Parlons un petit peu de Monaco. On n'en parle jamais de Monaco. Parlons aussi du titre, quand même, de challenge.fr, un titre magnifique. Monaco, premier état 5G d'Europe, grâce au sulfureux Huawei. Comme je l'ai dit dans le sommaire, rajoutez-moi un petit... T'as gagné quoi ? Tu as gagné un petit gonflage de ton ego. Ça fait toujours plaisir. C'est la... On a le titre parfait. Les espions chinois s'implantent à Monaco grâce au sulfureux Huawei. Puis tu rajoutes 5G derrière pour avoir le mot-clé pour remonter dans les recherches. Voilà. Monaco, ce n'est pas la France. Bah non, c'est pas la France, c'est Monaco. C'est Monaco. Effectivement, premier état d'Europe à adopter la 5G. Ils ont passé mardi, effectivement, ils ont lancé mardi leur réseau de 5G avec des équipements du chinois Huawei, faisant de la principauté dans le sud-est de la France. Le premier état en Europe totalement couvert. En même temps, Monaco, il faut une antenne. Hein. Franzi, le président de Monaco Télécom, nous devenons le premier état entièrement couvert en 5G. C'est pas le premier état en Europe géographique. La Suisse, pour tout couvrir, je suis méchant, mais avec la nouvelle technologie mobile. Effectivement, ils ont lancé mardi leur réseau de 5G. Et il y a déjà de la 5G aussi. Mais là, c'est entièrement couvert, Monaco. Il s'agit du premier pilier du programme Plus Extended Monaco Plus. Ça va, vous voulez pas plus de plus, là, Monaco ? Plus Extended Monaco Plus. Rajouter du pro, hein, plus extended Monaco, plus pro, hein. C'est ce qui se fait normalement dans le métier. Porté par la principauté qui nous permettra de basculer totalement dans le numérique. Alors, Xavier Niel a d'ailleurs tweeté l'affaire en mettant un petit screen, effectivement, d'un speed test pas mal du tout, hein, s'il en est. 5G World Premier Monaco Telecom First Full 5G Country Ultra High Speed Recorded at 1.4 gigabits. 5G Included All Mobile Package. Et hop, il nous met des hashtags 5G Ready to Go. 5G Extended Monaco. Ah d'accord, les plus Extended Monaco, c'est une erreur de typo dans mon texte. Il n'a pas mis les plus. Plus Extended Monaco Pro plus Max, exactement. Euh, Au niveau de la principauté, la 5G est une promesse d'une meilleure qualité de vie. Hein. Je ne savais pas que la qualité de vie était mauvaise à Monaco. Hein. J'en apprends hein, des belles ce matin. La vie à nos besoins, phrase bizarre. Et promesse d'une meilleure qualité de vie pour tous et des opportunités exceptionnelles. C'est également pour Huawei une belle opération. Hein. Ça permet. Pourquoi j'ai affiché l'article? Ah oui. Merde. Désolé, je vous avais laissé l'article affiché. Elle va permettre d'adapter la vie, de redorer son blason après avoir été placée par Washington sur la liste des entreprises suspectées d'espionner pour le compte de Pékin. Pour les exemples que Monaco présente d'utilisation, on va dire, collective de la 5G, le spécialiste du mobilier urbain Clear Channel a présenté ses abribus connectés équipés de Wi-Fi et proposant des services additionnels. Et également, les pompiers de la principauté de Monaco disposeront maintenant de leur part de drones permettant la diffusion d'images en qualité 4K en temps réel grâce à la très faible latence offerte par la 5G. Vous direz pourquoi on doit transmettre en 4K un feu? Eh ben, ça permet de surveiller des éventuels incidents et d'être plus précis. Là, pour le coup, la 4G a du sens. Hein. Pour le coup, on peut faire du pixel peeping sur une image 4G représentant les accidents pour avoir plus de précision. Donc, à rappeler quand même que Monaco n'est pas le premier au monde. Hein, en Corée du Sud, la 5G aussi commence à prendre. Mi-avril, l'opérateur suisse Swisscom a annoncé le premier réseau commercial 5G en Europe avec la couverture des principales villes du pays. Aux États-Unis, c'est en train de se déployer. Et ben maintenant, en France, il va falloir aller à Monaco si vous voulez de la 5G. Je propose d'ailleurs à l'Office du tourisme monégasque de me contacter, de m'offrir un séjour à Monaco pour que je fasse la promotion de voyage 5G. Quand vous achèterez à grands frais votre téléphone 5G en 2019-2020, mais que vous ne pourrez pas l'utiliser en France, il sera de bon ton de faire du tourisme de connectique à Monaco pour expérimenter votre 5G et pouvoir faire comme ça des screenshots de speed test. Donc voilà, hein, si Monaco vous cherchez un influenceur pour Romain de Tech News and Test, et c'est vrai qu'il est monégasque, enfin d'origine. Monaco appartient à Xavier Niel, c'est le laboratoire de Free. Ah, Monaco Télécom, oui. On déconne toujours un peu avec Monaco, mais j'aimerais bien être à leur place. Ouais, oui. Après, moi, je suis tout à fait d'accord pour une nouvelle forme de tourisme. Je suis partant. Je ne suis pas retourné à Monaco depuis au moins 15 ans. Va chez Romain pour le test. Ouais, mais ça serait trop facile d'aller à Monaco. J'y suis pas allé depuis 15 ans. Il y a 15 ans, ça m'a laissé une impression très, très mitigée. J'avais trouvé l'endroit assez triste. C'est propre, hein. Ça, c'est propre. Puis on sent qu'il y a de l'argent, ça, c'est sûr. On se sent bien protégé. Mais j'avais trouvé que c'était un peu aseptisé, quand même, comme vie. Donc, Monaco, appelez-moi. C'est triste, toutes ces voitures de sport. C'est toujours pareil. Ouais, vous trouvez ça... Après, il faudrait peut-être que j'y aille pendant des grosses manifestations. Après, j'y suis resté... je sais plus, j'y suis resté 3-4 jours. Donc voilà, après moi j'ai les chakras ouverts, hein. Je suis prêt à redécouvrir un endroit à Monaco. J'avais trouvé par exemple, à l'époque, hein, je sortais quand même beaucoup, hein, il y a 15 ans, on s'était pas vraiment marré le soir, c'était pas très rigolo. Bon, en même temps, j'ai pas le même âge, peut-être que je suis fait pour aller à Monaco maintenant. Bref, mais oui, ça j'ai un souvenir que c'était propre, mais même en Suisse c'est moins propre. Et pourtant c'est propre hein, la Suisse. Hein. Ouais, je suis prêt à me sacrifier pour aller à Monaco pour tester la 5G. Mais je suis prêt. Le Note 10 se dévoile en photo. Oui, c'est encore des rumeurs. Je n'ai pas choisi d'ailleurs de les montrer ce matin, Nicolas. Allez, on continue et on va parler d'iOS 13. Un truc très rigolo dans iOS 13. Hein, on n'a pas l'habitude de se marrer chez Apple, donc on va en profiter quand même un petit peu. Et je vous invite d'ailleurs, si vous avez la bêta publique d'iOS 13, d'ailleurs la nouvelle version est sortie avant-hier de la bêta publique, d'essayer l'expérience avec moi. Pour ça, il faut que vous alliez dans vos réglages. Alors, prenez votre truc iOS, allez dans vos réglages. Et maintenant, vous allez dans Game Center. Donc, Game Center, c'est en dessous de iTunes U. Vous avez Podcast, iTunes U, et en dessous, vous avez Game Center. Et dans le Game Center, soit vous avez déjà une identité, soit vous n'en avez pas. Si vous avez déjà une identité, vous l'effacez. Hein, temporairement, on annulera la manip. Et maintenant, vous regardez ce que vous suggère votre correcteur orthographique. En fait, ils ont mis un petit peu d'intelligence artificielle pour vous suggérer des pseudos de gamers assez rigolos. Alors moi, je vous lis, et pendant ce temps-là, ceux qui ont fait la manip avec moi, écrivez-moi ce que au moins un des trucs que l'intelligence artificielle vous suggère, enfin intelligence artificielle, on va dire que le correcteur vous suggère. Alors moi, j'ai le choix entre « Creative Warden of Iron Hill » ou Frank Griffin from Red Hill. On va réessayer pour en avoir d'autres. Hop, j'efface. Et là, j'ai Big Giant from Heavy Tower, Assistant of Fall Cave, ou Painful Jaguar of Grey Seas. C'est trop rigolo. Là, pour le coup, je trouve ça marrant comme petit Easter egg. Et de proposer, ils ont dû se marrer à faire ça parce qu'en fait c'est juste de l'assemblage de mots pour donner des noms à la Game of Thrones, mais c'est pas mal. Painful Jaguar of Grey Seas, ça claque quand même. Alors Anthony en a East Bigfoot from Iron Jungle. À faire des innovations comme ça, on n'est pas prêt d'avoir une gomme numérique de l'autre côté du ciel. Alors, en plus, t'as tort, Fantôme, parce que sur le nouveau Pencil 2, pour moi, ils ont fait mieux que la gomme numérique, avec le double tap. En fait, à l'usage, c'est super pratique. Et c'est mieux que de retourner son stylo, tu vas plus vite. Freaky Crocodile. On a Painful Mystic of Heavy, Heavy Hill pour Pascal. Et le tutoriel, lever du mauvais pied. Alors, on a Smart Guide of Enormous Swamp. Short Phoenix of Grey Marsh. Sleepy Runner from Sepia Grove. Grove. C'est excellent. C'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait en français. Peut-être rien à cirer de Game of Thrones. Eh, il y en a qui ont bu du jus de chaussette ce matin. Hein. J'en sens. Vous êtes grincheux, là, ce matin. Hein, fantôme. Gladiator of Warg Plain. Ah, c'est pas mal ça aussi. Non, pas grincheux. On attend juste du mieux, tu le sais bien. Oui, c'est ce que j'appelle grincheux, fantôme. Non, Groove, il y a deux O, justement. J'ai fait une faute de... c'est Grove, avec l'iOS 13 public, enfin normal. Peut-être qu'ils auront traduit ce moteur en français. Oui, ils ont mis un Fantasy Name Generator, ouais. Un seul O. Le Mick Bigfoot of Hidden Marsh. On peut pas se satisfaire à chaque fois qu'il... Non, mais fantôme, je te taquine. Tu vois, t'es grincheux, tu prends tout au sérieux. Je te dis, t'es grincheux. En fait, le mec, il est de super bonne humeur. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je te dis, t'es grincheux, t'as ta mauvaise mine ce matin. Va te recoucher. Le Sticky Bee from Burgundy Town. Ah, c'est pas mal, ça. J'ai un Android. Ah, c'est pas mal comme nom aussi. Eh ben voilà, t'as un Android, tu n'as pas le truc rigolo d'Apple du jour. Bien, moi, je laisse mon pseudo habituel, mon pseudo qui est The Old Cuban. C'est mon pseudo de gamer. Si un jour vous croisez un Old Cuban dans un de vos jeux, c'est peut-être moi. Et le nom ne vient pas d'un amour. Je ne suis jamais allé à Cuba. Mais par contre, The Old Cuban, c'est mon cocktail préféré. Voilà, vous savez tout. Je le fume. De toute façon, tu n'auras pas de difficulté. Hein. Si tu vois un mec qui tire des bastos dans le plafond, c'est moi. Non, Cuba Libre. J'aime bien le Cuba Libre. Non, le cocktail The Old Cuban. Enfin, old, ou ça dépend des trucs. C'est Old Cuban ou The Old Cuban. Non, non, ce n'est pas le Cuba Libre. Cuba Libre, c'est du rhum coca. Discord, j'ai les deux identités, en fait, je crois. Mais j'avoue que j'ai absolument pas le temps d'aller sur Discord en ce moment. C'est pas, je rappelle pas ça, enfin, c'est un cocktail, mais c'est pas ouf. Mais c'est bon, hein, j'aime bien. Hein, quand je peux pas avoir un Old Cuban, le rhum étant mon alcool préféré, mais je suis dans les graviers. Hein, vous n'avez pas besoin de me le signaler, les hôtesses, je sais, je suis dans les graviers. On parle cocktail, pas ma faute. Hein. Le badge, j'entends parler de rhum, je me dis ça doit être sympathique ici. Il y a quoi dans le The Old Cuban? Moi, je bois, hein, j'analyse pas. Mais allez, je vais faire une petite. On va voir si je trouve facilement. Après, pour être spécifique, j'aimais le Old Cuban d'un bar à Paris qui s'appelle l'Expérimental Cocktail Club. Tu faisais un Old Cuban qui était. Fou, ya, 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 ya. Alors, la recette Old Cuban. Hollow. Ah, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal. Bonjour, ça parle de rhum. Je passais de l'ail. C'est du rhum ambré, du sirop de sucre, du jus de citron vert, de l'angostura, du champagne et des feuilles de menthe. Ah non, 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 non. Ouais, ça doit dépendre parce que moi, il n'y avait pas de... Ouais, il doit y avoir des variantes. Parce que les feuilles de menthe, j'en ai jamais... J'aime pas... Non. Non, je suis pas d'accord. Alors peut-être qu'il y en a que je savais pas. En gros, ça ressemble à ça. Voilà, Old Cuban. Champagne. Trait d'angostura. Jus de citron vert. Sirop de sucre. Rhum ambré. Alors bien sûr, le Old Cuban n'est jamais aussi bon que le rhum ambré que vous mettez dedans. Donc ça dépend complètement, effectivement, du rhum que vous avez dedans. Tu connais la villageoise, c'est pas meilleur quand même. Ah, moi j'adore, c'est mon cocktail préféré, c'est villageoise et postillon mélangé. Postillon, pas les postillons, hein. Il y a un vin qui s'appelle le postillon, qui est aussi un vin recomposé avec des déchets de vin. Tu mélanges les deux, villageoise, postillon, pouyaya. Alors, pour la petite histoire, puisque vous voulez qu'on parle de cocktail, moi, c'était en Martinique où je me souviens, je voyais tout le monde qui commandait des vieux coca. Je me disais, pourquoi ils... Peut-être qu'ils aiment le coca sans bulle, donc ils demandent des coca dégazés, du vieux coca. Et ben en fait, c'est du rhum vieux avec du coca. Le Cuba Libre pour la moitié nord de l'Espagne, c'est JB Coca, pas de rhum. Il n'y a pas du rhum JB ? Je comprends pas. Enfin bref. Il est 8h50. Eh bien, ça tombe bien, j'ai presque fini. Hein ? C'était l'avant-dernier article. Non, mais je maîtrise, hein, faut pas croire. Hein. Est-ce que c'était mon... Oui, c'était mon avant-dernier article. Puisqu'on va terminer sur la triste histoire d'une carte Pokémon. Une carte Pokémon Collector qui a été vendue pour 60 000 $. Eh bien, elle s'est perdue pendant l'expédition. Vous imaginez quand même les boules, quoi. Alors, c'est le cas de cette carte achetée 60 000 $ par un joueur de New York il y a un an. Le problème, il ne l'a toujours pas reçue. La carte a été apparemment perdue dans le courrier. Elle était assurée avant que les assureurs de la chatroom se... Mais pourquoi il l'avait pas assurée, machin? Elle était assurée à 50 000 $. Mais comme vous le savez, hein, si vous avez déjà eu affaire à des assurances, c'est pas toujours simple, hein, de se faire payer par une assurance, hein, et le mot est fait. Bref, on va pas commencer un débat sur les assurances parce que je vais me chauffer. Hein, là. Bref, en tout cas, ça a été effectivement un deal assez important. Il faut savoir effectivement la trainer numéro 3 qui a été remise au troisième finaliste de la Super Secret Battle, un tournoi de jeux de cartes Pokémon qui s'est tenu au Japon en 1999. Cette carte est rarissime car seule la relativement rare des cartes Pokémon de ces prix-là, ça existe. Cette carte, pourquoi elle se vend cher? C'est parce que c'est une carte très précieuse puisque c'est était de participer à ce concours. Il y a d'autres cartes Pokémon qui ont atteint des prix faramineux. Une carte Pikachu Illustrator s'est vendue pour 54 000. Une carte Yu-Gi-Oh a été mise en vente au Japon pour 400 000 $. Hein? Alors ça vous fait regarder autrement votre collection de cartes Pokémon qui traîne au fond du tiroir que vous apprêtiez à jeter. Peut-être que vous avez un trésor là-dedans. Les assureurs sont peut-être les plus détestés au moins 55 000 $. Une carte de jeu de la première édition est partie pour 78 000 $. Et ça ne concerne pas que Pokémon, puisque oui, enfin, je pense que j'allais dire le collecteur des impôts, comme si on était encore au Moyen-Âge, les inspecteurs des impôts, c'est pas des métiers faciles non plus, hein, en termes de notoriété, on va dire. Il y a 4 ans, une année de malheur, j'ai commandé 500 €, 500 €, volatilisé dans nature, pas de pute de faire rembourser. Oui, c'est comme moi avec mes 7 000 € de matos que l'assurance m'a pas du tout aidé. Ça se prononce Yu-Gi-Oh, pardon. Ouais, je suis pas un spécialiste. J'ai dit quoi, Yu-Gi-Oh? Ah oui, c'est Yu-Gi-Oh, pardon. Ou Yu-Gi-Oh. Ah, il y a débat, hein, là. Non, mais j'avoue que je connais pas du tout. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, moi, mon enfance, j'étais plutôt culture comics et, on va dire, geek US. Et comme j'étais aux US, on n'avait pas trop les mangas et la culture, à cette époque-là, en tout cas, la culture japonaise. Après, je suis arrivé en France à l'époque, c'était Captain Flame, Goldorak et tout. Donc, c'est là que j'ai découvert. Mais j'ai jamais été très... J'ai pas une très grande culture japanime, etc. Non, je n'étais pas si vieux que ça quand je suis rentré en France. Mais il y avait... Goldorak durait déjà depuis pas mal d'années. Après, ouais, il y avait Captain Flame et tout le tralala, quoi. Ouais, le fameux Club Dorothée. Mais ça s'appelait encore Club Dorothée, moi, à mon époque. Je sais plus. Il y avait Recréa 2 aussi. Bref, on s'en fout. Tu ne parles pas du brevet d'Apple pour un écran pliable aujourd'hui? On n'en a pas déjà parlé de ça. C'est old news, ça, Bruno. Bah, tu vois, Nicolas Pimprenel et tous ces trucs-là, j'ai pas connu. Moi, j'étais aux États-Unis à cette époque-là. Et on n'avait pas Nicolas et Pimprenel. Ça y est, tout le monde parle de son enfance. Et ça, c'est ma faute, hein. Non, il n'y avait pas Bonne Nuit les Petits aux États-Unis. Mais j'avais Sesame Street, moi. Le Manège Enchanté, le Club Dorothée avec les Chevaliers du Zodiac. Ah ouais, Yu-Gi-Oh! Ah oui, 96-98. Ouais, non, bah ouais, j'étais définitivement trop vieux. Tu vas te prendre une grande baffe, Jérôme. Ah, pas, non? J'ai pas connu De Gaulle, moi. Est-ce qu'il était mort déjà? Il est mort quand, De Gaulle? Vieux alors pour ça. Je pensais que c'était avant. T'avais pas le discours de. Putain, juste après, Google, il va se demander ce qui se passe. Hein. Je cherche Joël Cuban, mort De Gaulle. Je vous dis pas. Eh ben non, il est mort avant ma naissance. Un rue Sésame en France. Ouais, mais vous l'avez eu vachement plus tard. C'est bien triste cette histoire, hein, pour l'acheteur et pour le vendeur, hein. Mais j'ai trouvé que c'était une petite anecdote amusante pour nous. C'est toujours drôle de rire du malheur des gens. Vite ton fac du jeudi. Je le rappelle aux contributeurs, aux gens qui nous aident sur Tipeee ou en étant membre YouTube. Ce soir, désolé, je peux pas étendre ça à Utip, Sesame Street. Et ça reste Sesame Street, c'est pas un rue Sésame, quoi. Allez, bon, en tout cas, on termine l'émission là-dessus, sur cette note bien cynique qui vous est offerte par Jérôme. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission et de l'avoir commenté avec moi. On va passer à YouTube, la Garden Party, pardon, je devrais être plus respectueux. Donc, rendez-vous ce soir pour le jeudi VIP à 18h pour les contributeurs. Compliqué techniquement pour moi, mais ce soir vous aurez droit donc à notre jeudi VIP, peut-être même prolongé parce que le dernier n'a duré qu'une demi-heure puisque j'étais. Eh bien, nous allons passer effectivement aux questions. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin, donc si vous avez. Par contre, tu peux pas t'abo à YouTube. J'ai pas anticipé de la tester. Vite ton fac, c'est après un bon point dans la gueule. Voilà. GNB, whisky écossais, Coca-Cola, je précise. Bah oui, mais ça. Tu veux devenir YouTube member de Nowtech et tu peux pas. As-tu prévu de tester la Osmo Action Cam? Non. A priori, non. Je vais pas tester de la. Ça a rien à voir avec un Cuba Libre. Cuba Libre, c'est rhum, Coca. Tu en penses quoi du Zoom H1? Très bon enregistreur, très bas prix. Jeudi VIP avec 30 minutes de rab ce soir, Samuel me confirme. Quel est le concept du jeudi VIP? Ah, les contributeurs le savent et vous le savez pas. Non, je le dis, c'est pour les contributeurs un moment où ben voilà, je peux parler directement à mes contributeurs. En fait, ça dépend complètement des émissions. Généralement, on discute à brûle-pourpoint, je parle des projets de la chaîne, ou alors ça peut partir sur des facs, mais au moins, comme on est en petit nombre, les contributeurs, j'ai vraiment le temps de répondre, on a vraiment le temps de discuter. Je présente généralement également des projets en avant-première aux contributeurs, avoir un premier feedback sur des projets. Voilà. Le Zoom H1 existe-t-il encore neuf? Je sais pas, il faudrait vérifier sur Amazon. Un bon hybride à 800 000 euros. Oh, t'en as plusieurs. Le dernier Sony, là, je crois que c'est le 6400, il est bien. Chez Lumix, les GX8 ou GX. Oh putain, je me perds avec les appellations Lumix. Mais chez Lumix, t'as des trucs bien. Je connais pas trop ces gammes de prix chez Canon et Nikon, donc je veux pas dire de conneries. Et chez Fuji, t'as quand même des trucs pas mal aussi, hein. Le X-T30, même si je l'ai pas testé sur la chaîne, je vous ai fait le test du X-T3. Le X-T30 a pas mal de choses. Pour la photo, c'est vraiment bien, quoi. Ah, Samuel, t'as manifestement donné le lien d'une chaîne pour bébé. Jeudi VIP, c'est gravier, gravier, gravier. Non, pas exactement. C'est pépite d'or, pépite d'or, pépite d'or. Je dérape dans les pépites, en fait, dans les jeudis VIP. C'est quand tu rejoins ou quand tu fais un don. Tu deviens contributeur quand tu rejoins, effectivement, soit les contributeurs. Il faut avoir rejoint sur Nowtech Live ou Nowtech tout court. Non, sur Nowtech tout court, la chaîne principale. Tu fais bien effectivement de demander. Il faut devenir membre sur la chaîne principale. C'est une réunion d'actionnaires, pas faux. J'ai pas ouvert les membres sur Nowtech Live parce que sinon ça serait très compliqué à gérer. Mais c'est membre sur la chaîne principale. D'ailleurs, j'ai. Ouais, je veux. Soit les YouTube members. Ce qui se passe dans le jeudi VIP reste dans le jeudi VIP. C'est vrai aussi. Nous restons entre pépites. C'est quelque chose que je suis en train de réfléchir, justement pour que les gens qui sont membres puissent profiter aussi de leurs icônes et de leurs avantages. Il est possible qu'une fois par semaine, la nouvelle formule de l'émission, on va dire quelque part vers la rentrée, il y aura une matinale par semaine qui se déroulera sur la chaîne principale. Sur la chaîne principale. Alors, oui et non. En fait, si vous devenez contributeur ou dans le cas où vous devenez membre YouTube, vous aurez accès à communauté. Et là, je fais un post réservé aux contributeurs. Et c'est là-dedans que je donne le lien vers le live privé. Donc, vous pouvez très bien devenir contributeur aujourd'hui et avoir droit au live privé ce soir. C'est juste le Slack qui prend un petit peu plus de temps. Contributeur, par exemple, aujourd'hui, vous n'aurez pas accès au Slack aujourd'hui, parce que ça, c'est une manip manuelle que Marion fait. Mais par contre, vous aurez directement accès aux news réservées aux contributeurs, à des icônes honorifiques, selon la durée où tu es contributeur. Alors nous, c'est des logos Nowtech qui changent de couleur, en fait. Y a-t-il un de France? Quand on aura de quoi le financer? Des icônes, de quoi tu parles? En fait, quand tu deviens YouTube member, que tu soutiens la chaîne directement à travers YouTube, tu es que tu attends avec impatience. Pas plus que ça. Jérôme, quel filtre ND pour ton G7 pour faire des vidéos? C'est une bonne idée, ça. Je devrais en tester plus des filtres ND. J'ai pas vraiment de conseils à te donner. Moi, celui que j'ai acheté, honnêtement, je sais pas si je le recommande parce qu'il se disloque un peu. Je l'avais payé 20 €. Faut dire qu'on l'utilise intensivement. Donc, il est probable que je me mette à tester des filtres ND un peu plus haut de gamme. Et à ce moment-là, je vous ferai peut-être un test. Il est 9h05. Merci Samuel. On va rester encore 5 minutes quand même. iPad iOS 13 avec impatience. Écoute, c'est très bien. Hein. Moi, je suis en bêta et je trouve ça très bien. Est-ce que ça marche pour les contributeurs Tipeee? Non, les contributeurs Tipeee, on ne peut pas leur mettre des icônes spécifiques. C'est ça qui est compliqué hein, dans cette histoire. C'est que comme c'est deux systèmes complètement différents, Tipeee et les YouTube members, on ne peut pas attribuer les mêmes avantages aux uns et aux autres. Donc pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les contributeurs Tipeee, eux, ils ont droit au Slack. Et les contributeurs sur YouTube, eux, ils ont droit aux avantages du système YouTube. Tout est expliqué dans la vidéo que j'ai faite. Alors, à Nowtech, j'irai dormir chez vous. Ça paye pas le train, hein, Philippe. Cochonou en sponsor. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, Jérôme. Jérôme, sur un vélo pour le tour, je suis prêt à payer pour ça. Je suis tout à fait digne sur un... J'aurai des maillots, le maillot des étapes. T'as déjà serré la main à Barack Obama? Non. Mais pourquoi j'aurais serré la main à Barack Obama? Performant, c'est autre chose, mais digne, oui. Est-ce que tu as déjà fait un chabit à Boris Eltsine? Et ceux qui font les deux, bah, ils ont tous les avantages, Francis. Ils ont tous les avantages. Je suis d'accord, hein, Fantôme Littéraire, c'est entre Tipeee et YouTube Member. Pour l'instant, c'est plutôt Tipeee que je mets en avant. Le futur nous dira. Moi, j'aimerais arriver à un seul système de contributeurs. Aujourd'hui, la contribution sur YouTube n'est pas assez souple pour que je bascule tout le monde sur la contribution YouTube. Elle présente des gros avantages techniques, par contre, pour nous, en termes de déclaration fiscale, je ne vais pas vous le cacher. C'est plus simple pour nous à gérer sur YouTube et potentiellement techniquement le fichier sera plus intégré à YouTube donc c'est Tipeee, voilà. Je t'avais déjà posé une question une fois sur les emojis que quand si ça s'améliore le YouTube Member, je basculerai. Mais aujourd'hui, c'est la situation inverse. Tipeee est un produit qui est plus abouti que YouTube Member, avec plus de flexibilité, qui est plus simple pour moi en compte. Trump bloque ses opposants sur Twitter. What do you think about it? Oui, j'ai vu passer les articles. On avait fait un article là-dessus, hein, sur les décisions de Twitter. Quand t'es YouTube Member? Je parlais pas des icônes, mais apparemment, il y a aussi des émoticônes spéciales pour le chat. Oui, exact. Par rapport, on va dire, aux célébrités, il y a des décisions qui sont en train d'être prises pour Twitter. Après, là, c'est plus un problème politique américain. Si j'ai bien compris, c'est un problème avec les amendements américains. Le fait que Twitter, que Trump ait banni des gens sur Twitter serait anticonstitutionnel pour un président des États-Unis. YouTube ne prend pas plus de marge que Tipeee. C'est pas des problèmes que vous sur lesquels vous devriez vous préoccuper. Parce qu'en fait, ça marche pas. Vous voulez des valeurs uniques. Oui, YouTube prend plus de marge que Tipeee. Mais en même temps, YouTube offre une visibilité et met en avant ton système de crowdfunding bien mieux que le fait Tipeee. Donc, c'est pas parce que YouTube prend plus de marge que je gagnerai moins d'argent, en fait, sur le système YouTube. Donc on ne peut pas raisonner comme ça. Il est 9h10. Non, il est 9h09. Vous avancez. Et ma question, c'était donc, à l'époque, c'est des émoticônes désignés spéciales pour Nowtech, certains YouTubeurs ont avec leur tête, tout a choisi des émoticônes. Non, on les a dessinés nous-mêmes, Vaya. Ça fait partie de nos projets. Un jour, on fera appel. On les a bricolés nous-mêmes, on va dire. Un jour, on fera vraiment nos propres émoticônes avec un designer et tout, quoi. Tipeee, c'est les Incas. Alors déjà, les Incas ne dormaient pas sous des tipis, hein. Là, tu te gourres, Johnny. C'est les Amérindiens, certains Amérindiens qui avaient des tipis, mais les Incas, non. Tu peux créer d'autres icônes sur YouTube avec ta tête? Non. Non, tu peux pas. À ton avis, combien coûterait le MacBook Pro 16? Alors là, faire des pronostics sur les prix Apple, cher. Voilà, il va coûter cher. Moi, cet après-midi, je serai dans mon camion. Donc, parler en chat, ça sera compliqué. Eh bien, écoute, Half-Life, on pensera à toi. Tu pourras nous écouter. Et effectivement, garde les deux mains sur le volant. Allez, Jérôme, faut arrêter. T'as raison, il est 9h11. J'ai volé une minute à Samuel. Je vous souhaite une excellente journée. Désolé encore si j'ai raté des questions. Hein, non, alors désolé, Jérôme, mais Inca, Maya, Guarani, Amérindien, Navarro, c'est la même chose. Au secours! Déjà, c'est pas du tout les mêmes époques. Allez, rendez-vous avec les contributeurs ce soir à 18h. Et je vous souhaite une excellente journée. Et pour les autres, on se retrouve demain matin. Et ça sera encore moi. Je vous fais des gros bisous. À demain et à ce soir, les contributeurs. Ciao, ciao.